Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les dystonies cervicales et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Marc Trossello. Docteur Trossello, bonjour.
Bonjour.
Docteur Trossello, vous êtes neurologue, praticien titulaire au sein du service de neurologie dans l'unité Parkinson et mouvements anormaux de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris, qui a une grande expertise dans la prise en charge des dystonies. Alors, docteur Trossello, on va aborder le diagnostic de la dystonie cervicale. On sait que les patients qui souffrent de dystonie cervicale peuvent rester assez longtemps sans que le diagnostic soit correctement posé. Comment améliorer ce délai diagnostique?
C'est vrai qu'on est face à un dilemme, à des notions contradictoires où on est face à une maladie rare. Donc, beaucoup de médecins n'ont jamais vu, ne verront jamais durant leur carrière de dystonie cervicale. On est dans une pathologie, effectivement, dont la fréquence fait que quelques médecins vont faire toute leur carrière sans avoir de dystonie cervicale. Et à la fois, c'est un diagnostic clinique, et donc il faudrait avoir une grande expérience pour pouvoir faire le diagnostic. Donc, à la fois, on n'a pas cette expérience parce que c'est une maladie rare, et pourtant, ça reste un diagnostic qui est surtout posé par l'expérience et par la présentation clinique des patients. D'où cette errance diagnostique qui peut durer des années et des années, malheureusement. Et pour essayer de voir comment on peut améliorer ces choses-là, on peut essayer de reprendre ensemble les symptômes initiaux. Donc on est face à une contraction musculaire inadaptée, involontaire, qui va venir perturber une posture, la posture de la tête, et le mouvement, c'est-à-dire le fait de tourner la tête va être freiné, va être, par exemple, on va essayer de tourner la tête du côté droit, et ça va être difficile, on va se sentir limité par la co-contraction de quelques muscles qui viennent perturber ce geste, ce mouvement. Donc on peut déjà voir face au patient une limitation dans certains mouvements de la tête. On lui fait tourner la tête à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas. On lui fait incliner la tête à droite, à gauche. Et on voit que il va signaler, il va nous indiquer une gêne, une limitation. Parfois une douleur, mais ce n'est pas toujours le cas. Et associé à cette contraction musculaire, qui est finalement le symptôme principal de la dystonie, on va avoir souvent associé un geste antagoniste, c'est-à-dire le patient qui a trouvé, entre guillemets, une stratégie pour essayer de diminuer cette posture dystonique en posant ses doigts, par exemple, sur le menton, sans forcément vouloir maintenir sa tête, mais rien que le fait d'effleurer sa peau sur le visage va entraîner une diminution de la dystonie. C'est ce qu'on appelle le geste antagoniste, et c'est un argument, un élément qui va vraiment en faveur du diagnostic. Et puis on a un troisième élément qui est ce qu'on appelle l'overflow ou l'embrasement, c'est-à-dire que plus on pense à la motricité, plus on veut faire le geste, plus la dystonie va être importante. Ou même quand on réalise une activité musculaire autre, on va avoir cet embrasement où la dystonie va augmenter. Donc on est face à ces trois éléments, une contraction musculaire inadaptée associée à un geste antagoniste et un phénomène d'embrasement qui va vraiment caractériser la dystonie cervicale. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres symptômes, comme un tremblement de la tête, des spasmes. Et la douleur, elle peut bien sûr être également présente, mais souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent cette douleur est plus le fait de muscles qui vont lutter contre la dystonie. Par exemple, si la tête tourne à droite, on va lutter toute la journée à essayer de redresser la tête pour aller vers la gauche, et on va avoir plutôt des douleurs dans les trapèzes ou dans les muscles contralatéraux à la dystonie. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve souvent avec des patients qui ont erré pendant des mois, voire des années, et ce diagnostic n'a pas été posé. Et c'est vrai qu'en reprenant les médecins qui nous adressent les patients pour une dystonie, ça nous permet de voir un peu quels sont les premiers symptômes. Alors c'est souvent les médecins généralistes qui évoquent ce diagnostic, ou en tout cas qui se disent qu'un patient qui a un trouble de la posture de la tête, eh bien ça serait peut-être intéressant qu'il voit un neurologue, sans forcément poser le diagnostic. On a aussi beaucoup de patients qui viennent de la rhumatologie, parce que ça peut être pris au départ comme une posture associée à des névralgies cervico-brachiales avec de l'arthrose cervicale ou des choses comme ça. Et Évidemment aussi, trop souvent, il peut y avoir aussi une prise en charge plutôt psychologique ou psychiatrique initialement, puisque comme c'est un diagnostic clinique, tous les examens sont négatifs et souvent, malheureusement, on a un peu tendance, il n'y a pas d'examen complémentaire qui donne le diagnostic, donc il n'y a rien, donc c'est probablement psychologique et c'est un raccourci qu'il faut vraiment éviter de faire. Il arrive qu'on fasse trop vite le diagnostic d'une pathologie psychologique ou psychiatrique, malheureusement.
Alors justement, docteur Trossello, comment l'effectuer, ce diagnostic de dystonie cervicale ?
Eh bien ça, c'est une grande difficulté parce que c'est vraiment le diagnostic clinique. Et dans les diagnostics différentiels, on va avoir besoin de faire des examens complémentaires pour différencier certains diagnostics, mais on reste vraiment sur ce diagnostic clinique. Alors quelquefois, on peut avoir recours et on l'entend parfois à un électromyogramme. Alors plus exactement, c'est un enregistrement polygraphique de surface. C'est pas comme un électromyogramme que l'on fait habituellement en neurologie où on enregistre l'activité des nerfs et des muscles. Là, on est vraiment sur un enregistrement des muscles au niveau cervical, mais il faut savoir que un muscle dystonique, un muscle qui va se contracter, ressemble fortement à un muscle qui se contracte spontanément ou volontairement, ou voire qui lutte contre la dystonie. Et donc, c'est pas cet examen qui va nous apporter vraiment une garantie, en tout cas une assurance de notre diagnostic. Il peut guider parfois le traitement, c'est-à-dire les injections de toxines botuliques, par exemple, pour repérer quel muscle est impliqué ou pas dans la dystonie cervicale. Il faut aussi faire attention cliniquement à ce n'est pas un torticolis, parce que souvent la dystonie cervicale, l'autre nom c'est torticolis spasmodique, et on peut avoir une confusion entre ce qu'on appelle un torticolis, c'est-à-dire une contracture musculaire qu'on a tous eu le matin au réveil, on a attrapé froid, on est plutôt dans une contraction musculaire un peu réflexe du cou, mais qui n'a rien à voir avec une pathologie neurologique liée au système nerveux central, comme dans le cas d'une dystonie cervicale avec une évolution chronique et où la douleur n'est pas au premier plan et qui limite le mouvement de façon plus prolongée.
Est-ce qu'il y a des examens complémentaires qu'on peut réaliser pour confirmer ce diagnostic de dystonie cervicale ?
Alors oui, il y a des examens complémentaires, mais le redire, on est vraiment sur un diagnostic clinique et les examens complémentaires seront là simplement pour éliminer des diagnostics différentiels.
Alors, quels sont-ils, ces diagnostics différentiels à éliminer ?
Si on schématise un petit peu, on peut se dire qu'on a deux grandes pathologies à éliminer. On a les pseudo-dystonies, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une dystonie, mais une contraction musculaire. Et puis, on a de l'autre côté les dystonies réelles, mais plutôt secondaires à quelque chose. Et il faudra éliminer les causes secondaires de dystonie. Donc, parlons du premier élément, les pseudo-dystonies. Ça donne l'aspect d'une dystonie, mais ce n'est pas une dystonie au sens propre, où on retient le mot dystonie dans une pathologie neurologique. Alors là, on est dans une pathologie périphérique de contraction musculaire au niveau cervical. Et on vient de parler du torticolis aigu, qui n'a rien à voir avec la dystonie. On a par contre d'autres pathologies où il peut y avoir des contractions musculaires cervicales, comme des maladies, alors c'est un peu compliqué, mais c'est des maladies de la charnière au niveau cervical haut. Alors il y a des malformations par exemple au niveau du cervelet qui va, comme les malformations de Chiari. Le cervelet peut s'engager un peu dans le trou occipital et associé à une cavité syringomyélique au niveau du tronc cérébral pour une syringobulbie et une syringomyélie si c'est au niveau de la moelle. Et on sait que ces patients qui ont une malformation à ce niveau-là peuvent avoir des contractions musculaires et donner un aspect de pseudo-dystonie. Devant un aspect épisodique, c'est pas tout le temps, des contractions musculaires douloureuses, il faut savoir évoquer des malformations de ce type. Et donc faire une IRM cérébrale, voire cervicale, pour rechercher ces malformations. On peut également avoir des pathologies cervicales de type une luxation des deux premières vertèbres, hein, ce qu'on appelle une luxation atloïdo-axoïdienne de l'atlas et de l'axis, de C1 et C2, qui peuvent donner des contractions musculaires et une pseudo-dystonie à ce niveau-là. On peut avoir des entorses lors d'un accident de voiture, par exemple des entorses cervicales qui donnent cette contraction musculaire, et encore une fois, là on n'est pas dans le cadre de la dystonie. Hein. On peut, alors ça c'est un peu différent, on peut avoir des infections locales qui peuvent donner des contractions musculaires, et on peut avoir un abcès derrière le pharynx par exemple qui vont donner des contractions, et donc il faut aussi éliminer un contexte infectieux, une dysphagie, enfin, les troubles de la déglutition, de l'alimentation, et dans ces cas-là aller rechercher une cause locale au niveau cervical par un scanner cervical par exemple, et qui permettra d'éliminer une cause locale en fonction du contexte. Chez l'enfant, il est décrit des postures pseudo-dystoniques associées à des reflux gastro-œsophagiens, à ce qu'on appelle la maladie de Sandifer, et qui est à rechercher, mais ça reste exceptionnel chez l'adulte. Donc voilà, pour faire le tour sur cette pseudo-dystonie, il faut pas hésiter devant l'aspect un peu étonnant, un peu des contractions par épisode. Il faut pas hésiter à réaliser une IRM cérébrale et une IRM cervicale pour rechercher ces différentes pathologies. Et puis à côté de ça, on a les dystonies secondaires, c'est-à-dire c'est vraiment une dystonie, c'est réellement une pathologie dystonique, une contraction musculaire inadaptée au niveau cervical, mais c'est pas une dystonie cervicale idiopathique, c'est-à-dire sans cause particulière avec tous les examens normaux. Là, il faut, on part sur de la génétique le plus souvent, et donc qu'est-ce qui doit nous mener à évoquer une cause génétique dans la dystonie? Eh bien, principalement, ben, un début précoce, quand une dystonie cervicale commence chez l'enfant ou à l'adolescence, il faut vraiment là se méfier et savoir évoquer des pathologies génétiques. Quand cette dystonie survient plus tardivement, vers 40 ans, voire 60 ans, la probabilité que ça soit lié à une pathologie génétique reste très 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 faible. Dans ces formes génétiques, il est important finalement de savoir évoquer les pathologies pour lesquelles il y a un traitement. Et donc au premier rang desquelles se trouve la maladie de Wilson, et il faut savoir l'évoquer devant un adulte jeune qui présente une dystonie cervicale, surtout si cette dystonie a tendance à se généraliser, c'est-à-dire ça commence par le cou, puis il peut y avoir le bras, puis peut-être la jambe. Donc cette extension vers une dystonie, cette généralisation de la dystonie doit faire fortement évoquer une dystonie génétique, et en particulier une maladie de Wilson. Alors, comment faire le diagnostic de maladie de Wilson? Au moindre doute, il faut réaliser un bilan du cuivre, parce que c'est une pathologie de surcharge en cuivre, et donc il faut doser le cuivre dans le sang, mais surtout le cuivre dans les urines de 24 heures, donc faire une cuprurie des 24 heures, et doser dans le sang la céruloplasmine, donc faire une céruloplasminémie. Il faut associer à ces examens biologiques une IRM cérébrale qui va montrer des anomalies des noyaux gris centraux, une maladie de surcharge. Alors, ce n'est pas le cuivre qu'on voit directement, mais c'est la réaction cérébrale à la présence de cuivre qui va bien se visualiser au niveau de l'IRM cérébrale. Et puis, il faut également rechercher un dépôt de cuivre au niveau de l'œil. Et donc, c'est ce fameux anneau de Kaiser-Fleischer qui se recherche à l'examen à la lampe à fente. On est vraiment dans un enjeu majeur, puisque plus le traitement est débuté précocement, mieux sera contrôlée la maladie, et vraiment c'est essentiel. Les autres pathologies génétiques, il faut savoir les évoquer devant effectivement le début jeune et une généralisation de la dystonie qui évolue, et adresser le patient à un centre de référence pour la dystonie où il bénéficiera d'une consultation génétique pour rechercher les différentes pathologies. Pour résumer sur les examens complémentaires, il y a ceux qu'on fait pour les dystonies, les pseudodystonies, surtout au niveau de l'IRM cervicale, voire l'IRM cérébrale. Et puis pour les dystonies secondaires, on réalise une IRM cérébrale pour rechercher des dépôts de fer ou la réaction au cuivre, et un bilan biologique. Et on discutera dans un second temps les maladies génétiques.
Eh bien, merci mille fois, docteur Trossello, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la dystonie cervicale. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite!